c'est bien pour la santé. En faire presque tous les jours, c'est bien.
Faire du sport, c'est plus énergique.
Et tu reviens à la maison fatiguée.
Bah ouais, comme ça, après, t'as un petit temps de repos.
Et on est avec nos copains. Enfin, on le fait pas seul déjà, donc c'est mieux. Parce que ça peut être amusant. Et en même temps, bah, ça fait travailler notre corps. Donc, fière de toi. T'es contente d'avoir fait du sport?
Ça peut faire travailler l'esprit, travailler la confiance en soi. Par exemple, si t'es nouveau et tout, le sport, ça peut t'aider à trouver des copains si t'es fort à quelque chose.
Bah, on se sent bien, on se sent musclé,
léger,
les deux.
Bah, en fait, quand on fait du sport, et bah après, tellement ça fait du bien, et bah, t'as envie d'en continuer.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette rentrée, vous vous en sortez? Oui, je parle au présent, hein, parce que c'est pas encore vraiment terminé, la rentrée pour les parents. Le mois de septembre est un océan de post-it, une vaste liste de trucs à faire, des inscriptions, des attestations, des papiers à remplir, scolaires et extrascolaires. La charge mentale pèse une tonne, et les activités sportives y jouent un rôle non négligeable. Ne surtout pas rater le coche de l'inscription au judo, à la danse, au foot ou à l'escalade. Vous le savez, Barbatruc, nouvelle formule, c'est le rendez-vous des parents. Mon ambition est de vous accompagner dans votre vie avec les enfants, vous donner des pistes de réflexion, des idées, des astuces. Et cette semaine donc, le sport. Demandons-nous comment donner l'envie du sport aux enfants. Le faut-il vraiment, d'ailleurs? Quelle place pour le sens de la compétition et pour le dépassement de soi? Comment choisir une discipline sportive aussi? Et comment affronter les stéréotypes en la matière? Sortir de l'éternelle opposition entre les sports de filles et les sports de garçons, par exemple. Mais je vous préviens, supporter la charge mentale de la rentrée n'est pas considéré comme une discipline olympique. On retrouvera aussi les conseils d'albums jeunesse de Denis Chessou. L'as-tu lu, mon petit loup? Donner l'envie du sport, c'est parti.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, réalisée par Christophe Imbert, préparée par Mao de Butler. Sybille Clamins est à la technique. J'accueille deux invités, et pas des moindres, une championne d'escrime qui écrit des livres pour les enfants et un prof de PS footballeur qui enseigne la danse aux enfants, allez comprendre. Bonjour Astrid Guyard.
Bonjour Dorothée. Merci
beaucoup d'être là. Vous êtes escrimeuse, vice-championne olympique au fleuret par équipe cet été à Tokyo. Je ne vais pas faire la liste de vos médailles, ce serait un peu trop long, mais vous en avez gagné un paquet. Carrière sportive désormais terminée.
Ouais, oui, ça, c'est difficile de le dire, même si mon corps est lui très heureux et me remercie tous les matins. Ah. Mais effectivement, je suis une jeune retraitée de ma discipline sportive. Mmh. Voilà, une nouvelle vie qui s'ouvre, et c'est aussi enthousiasmant de pouvoir se dire que grâce au sport, on a la possibilité de vivre de multiples vies.
Voilà, une autre vie s'ouvre, celle de secrétaire général adjoint du Comité national olympique. Hein. Vous êtes aussi autrice de livres jeunesse, Les incroyables rencontres de Joe. C'est une collection de livres publiés au Cherche Midi. On va en parler largement. Le prénom du héros, Joe. Serait-ce un clin d'œil? Auriez-vous une petite obsession olympique, Astrid Guyard?
Oui, peut-être. Effectivement, il se trouve que ce prénom est aussi le sigle des Jeux Olympiques.
Allez, comme par hasard. Ouais, voilà. Bonjour Yves Lecoz.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes prof de PS, oui. Éducation physique et sportive, mais moi j'ai envie de dire prof de gym. Ah. Parce que vous êtes au cœur d'un documentaire qui m'a emballé et qui s'appelle comme ça, Le prof de gym. C'est un film sur vous, réalisé par Benoît Grimont. On le trouve gratuitement sur Internet, je le précise. On vous voit avec vos élève de 3e dans le 20e arrondissement de Paris. Vous les faites danser et vous réalisez avec eux un film de danse. Alors au début, c'est peu de dire que les élèves sont réticents et réticentes, et puis les digues, une à une, vont sauter. On va parler tout à l'heure, bien sûr, de cette pratique de la danse en cours de PS. J'aimerais d'abord vous demander une chose toute simple. Pourquoi êtes-vous prof de PS, Yves Lecoz?
Bah, je voulais d'abord être prof, moi. Ce qui m'intéressait, c'est d'être au contact de la jeunesse. Comment dire, c'était changer le monde, quoi.
Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est eux qui viennent après, c'est eux qu'on doit accompagner. Donc je voulais être prof, voilà. Puis après, je me suis demandé dans quelle matière. Et c'est vrai que voir les élèves debout, voir les élèves courir, voir les élèves se toucher, se taper, mais avec des règles, se jouer ensemble, rigoler, crier. vivant, quoi. Moi, ça m'a bien plu d'aborder cette carrière-là.
Et prof de gym, ça vous va comme profession?
Ben, en fait, quand je demande à mon grand-père qui était son prof de gym ou à mon fils de 5 ans, tout le monde voit qui on parle tout de suite.
Voilà, alors que c'est... prof de PS, c'est moins facile?
C'est pas ça, prof de PS, bon, ça s'est pas toujours appelé comme ça. Donc mon grand-père, prof de PS, ça lui parle moins.
Et votre sport à vous, je le disais tout à l'heure, c'est le football. Vous pratiquez le football à titre amateur, je crois, Yves Lecoz.
Ouais.
Vous êtes donc un footballeur qui enseigne la danse. On a le droit d'être surpris.
Bah oui, j'ai pas eu autant de médailles que ça. Enfin, j'en ai plein, hein. J'ai le tournoi de Perros-Irec, c'était pas rien. Je pense vraiment à ça, et c'est vrai que ça fait partie aussi de mon métier, ça, de dire aux enfants, la Coupe du Monde, c'est tous les jours, c'est maintenant. Je veux dire, vous ferez peut-être pas les Jeux Olympiques, mais c'est maintenant. Comme ça, je me souviens d'un témoignage de Lilian Thuram, qui, à la fin de la Coupe du Monde, on lui a demandé ce que ça lui avait fait de gagner, d'être champion du monde. Il a dit, mais moi, c'était génial, mais ma plus grande victoire, c'était dans le bac à sable, en bas, quand j'avais gagné. On avait, les petits, on avait battu les grands. Ça, c'est des choses qui marquent pour la vie. Et ça, c'est... Enfin, les championnats du monde, c'est tous les jours.
Astrid Guyard, opine du chef.
Exactement. Mais moi, c'est vrai que petite, quand j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans dans le club du Vésinet, des Jeux Olympiques, j'en avais tous les week-ends. Enfin, je faisais une compétition par mois, peut-être. Et à chaque âge, en fait, on a sa compétition de référence, on a son petit challenge à soi. Et en fait, tout est une question d'échelle. Moi, je me souviens autant de certaines grandes compétitions internationales gagnées avec l'équipe de France d'escrime que de ma première médaille quand j'étais moustiquette. Exactement, quand on a un peu avant 5 ans et de mes premières médailles en championnat départemental. Ça compte à cet âge-là. Et puis, c'est surtout un sentiment de compétence qu'on a. On a une reconnaissance, on se sent capable. Donc, on a aussi, grâce au sport, une capacité à croire en soi et en sa valeur.
Barbatruc a mis son plus beau survêt. On parle de sport jusqu'à 16h.
France Inter, le samedi à 15h.
C'était Silk Sonic sur France Inter, le choix de notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Comment donner aux enfants l'envie du sport et le goût de l'effort? Deux invités cette semaine dans Barbatruc, Yves Lecause, professeur de PS à Paris, ainsi qu'Astrid Guyard, escrimeuse qui était au Japon il y a quelques semaines.
Et les mots d'encouragement hein, de toute l'équipe, on a entendu ses copines.
Un petit point.
C'est parti, une place en finale. En quatre coups français, c'est pas elle. Isaora Tibus qui est allée chercher.
La médaille est assurée, elles peuvent aller chercher le titre.
Exactement. Pauline Ravier, Isaora Tibus, Anita Blaz et Astrid Guyard en finale de ce tournoi de fleuret par équipe féminin.
On était quand même à moins 10. Hein.
On était à moins 11 même à un moment.
Oh là là, c'est incroyable.
Bravo, la première médaille olympique du fleuret féminin depuis 1984.
Un extrait des retransmissions des JO sur Eurosport, médaille d'argent en fleuret par équipe. Ça vous fait quel effet d'entendre ça, Astrid Guyard?
Que d'émotion. Je ne l'ai pas entendu en fait. Parce que forcément, j'étais la petite voix qui crie de manière hystérique sur votre bande son.
On vous a bien entendu.
Je me souviens très bien d'être. On est toutes tombées sur Isa, on s'est enlacées, on est restées très longtemps en sol, ensemble, comme un bloc qui venait de réaliser une remontada sur l'Italie avec, parce qu'on avait 12 points de retard. Donc on sent d'ailleurs dans nos cris cette délivrance, ce sentiment du travail accompli, d'avoir été solidaires, unis entre nous. C'est ça la beauté des équipes. Et puis j'ai une émotion aussi d'entendre la voix d'Adeline Willem, qui était la commentatrice, la consultante, qui m'a tout appris. Elle m'a appris le sport de haut niveau. Et c'est ça qui est intéressant dans le sport, c'est que c'est aussi une histoire de transmission. Moi, c'était ma grande quand j'ai commencé à rentrer en équipe de France et j'ai juste eu à la regarder pour savoir comment faire. Et je trouve que c'est intéressant dans le sport aussi, cette transmission générationnelle. On apprend des uns des autres et c'est vraiment très fort.
On avait tous les trois la chair de poule là en entendant ce petit extrait sonore. Regardez les JO, Astrid Guyard. Est-ce que c'est une bonne manière de découvrir le sport pour les enfants, à votre avis?
Absolument, parce qu'en fait, il y a un langage universel dans le sport, c'est l'émotion. Les Jeux Olympiques, c'est de l'émotion. On voit des athlètes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des moments de joie extrême, comme on vient de l'entendre. Et il y a des moments de déception. Il peut y avoir... On passe par tous les panels d'émotions, même au cours d'une même épreuve, d'une même journée. Et ça, je pense qu'un enfant le perçoit. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est ressentir. Yves l'a dit tout à l'heure, c'est vivre, c'est vibrer. Et le sport, c'est exactement ça.
Mais le sport de haut niveau, Yves Lecause, c'est aussi frustrant pour le commun des mortels, parce qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là.
Je pense souvent dans ces moments-là, parce que moi, je suis pratiquant. Là, c'est le pratiquant qui vous parle. Moi, quand je vois les Jeux Olympiques, je suis debout sur mon canapé, je deviens fou. Quand je joue, encore une fois, je fais la Coupe du Monde tous les jours. Mais c'est vrai que moi, je suis devenu prof aussi pour une autre raison. Il y a quand même des gens qui ne s'intéressent pas. Il y a quand même des enfants qui passent à travers de ça. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Et moi, j'aime bien aller titiller un peu cette façon que certains jeunes, notamment les adolescents, mes élèves, ont d'être vraiment loin de cette idée-là.
Il y a une forme de fierté presque à ne pas aimer le sport, parfois.
Oui, tout à fait. Il peut y avoir vraiment la défiance après vis-à-vis de tout ce qui plaît à tout le monde, ce qui plaît à la majorité, ou ce qui plaît au leader de la classe, au leader charismatique, bon en sport, et voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se désintéresser du sport. Et notamment, s'empêcher, parce que de vivre ces émotions-là, et de pas s'autoriser à ça.
Une idée pour intéresser les plus jeunes. Les incroyables rencontres de Joe. C'est une collection de livres pour enfants que vous avez publié au Cherche Midi, à Astrid Guyard. Chaque bouquin est consacré à un sport. Le rebond de Joe autour du basket, Joe au perché pour le saut à la perche, le coup de main de Joe, une histoire de handball, le face-à-face de Joe, bien sûr, parle de votre sport, l'escrime, et le plus récent, Joe tout feu tout glace sur le patinage artistique. La bonne idée, c'est que vous imaginez l'enfance des champions et des championnes.
Absolument. En fait, ce petit Joe, il a 10 ans. Il va rencontrer au cours de son aventure un autre enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion français. Donc un champion, un sport, mais c'est surtout une valeur que j'ai voulu mettre en avant dans ces livres pour enfants. J'ai pas voulu parler du sport performance. J'ai vraiment voulu parler des valeurs du sport, de comment le sport peut vous permettre de vous révéler, de vous développer sur le plan personnel. Et j'avais par contre envie de donner un exemple à des enfants, des grands champions, qui ont un palmarès immense, mais qui sont aussi de très belles personnes. J'avais envie de les donner en exemple. Et donc voilà, c'est comme ça que s'est créée cette idée d'album. Et aussi parce que moi, à ce moment-là, j'avais besoin de me reconnecter aux valeurs du sport. On était en pleine qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. C'était très dur. C'était une qualification, pour le coup, purement individuelle, très écharpée. Et j'avais besoin de cette bulle d'air et de me rappeler pourquoi j'étais sportive de niveau. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'âge de 5 ans, j'avais poussé la porte de ce club d'escrime. Qu'est-ce qui m'avait donné envie de m'épanouir dans ce sport, de m'y faire tous ces amis. Et ce petit Joe-là, ces histoires que j'ai écrites au départ pour ma nièce, ça m'a permis de me reconnecter au pourquoi.
Surprise, il n'y a pas de foot dans cette collection.
Non, et mon illustrateur me l'interdit même.
L'illustrateur, c'est Olivier Loyen.
On va en parler.
Il s'agit aussi de bousculer l'hégémonie du football.
En fait, ça part plutôt de mon constat. Au départ, moi, je veux offrir un cadeau pour ma nièce, que j'adore.
Et vous trouvez que des livres sur le foot.
Je trouve que des livres sur le foot. Et je me dis, bon, mince, si ça n'existe pas, il va falloir que je lui écrive moi-même une petite histoire. Au départ, c'était censé être une histoire pour dormir. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu une collection jeunesse.
Voilà, le petit Joe rencontre, par exemple, une certaine Nathalie, qui deviendra qui s'appelle déjà Péchala, mais qui deviendra championne de danse sur glace, Nathalie Péchala. Est-ce que l'idée, c'est aussi de montrer que le sport a des vertus de cohésion sociale? Parce qu'on est à l'école, il s'agit de se faire ou pas des amis, c'est très important ça pour Joe.
Absolument, et on l'a entendu d'ailleurs dans la bande-son au tout début de cette émission, les notions de plaisir, les notions de se faire des copains. Et ça c'est essentiel, et en fait effectivement, Joe c'est avant tout des histoires de rencontres, c'est des histoires de vie, c'est des aventures humaines, et moi typiquement, avec l'escrime, je me suis fait mes meilleurs amis. À l'âge de 10 ans, j'ai rencontré aujourd'hui des gens qui seront les témoins de mon futur mariage.
Félicitations pour le mariage. De soulever un point intéressant, Astrid Guyard, en disant pourquoi j'ai poussé la porte de mon club d'escrime à 5 ans. Mais justement, c'est pas vous qui avez décidé, à l'âge de 5 ans, de faire de l'escrime.
C'est très vrai. Alors, mon frère en faisait déjà, donc il y a eu une impulsion de départ. Évidemment, il a fallu que mes parents aillent au forum des associations pour se dire, tiens, mon enfant est très actif, il est, on sent qu'il a de l'énergie, on va essayer de lui trouver un sport. Donc moi, j'ai suivi mon frère. La vraie raison, ce qui compte, c'est pourquoi vous continuez ce sport ? Parce que vous vous épanouissez, parce que vous y faites des rencontres, vous y faites des copains, vous avez plaisir à y retourner, et puis vous, voilà, vous, au-delà du plaisir, vous développez des compétences motrices, cognitives, vous vous sentez capable, vous mettez à croire en vous, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on continue.
Donc peu importe les raisons pour lesquelles on commence, ce qui compte peut-être, Yves Lecoz, en tout cas en matière d'activité extrascolaire, ce sont les raisons pour lesquelles on continue un sport.
Enfin, je pense pas que le sport soit porteur de valeur. Le sport, c'est un outil, c'est un objet, c'est un fait culturel, c'est un fait sociétal. Mais les valeurs qu'on y met, les valeurs morales, les valeurs d'éducation, c'est l'éducateur qui les donne. C'est-à-dire qu'on peut faire du foot et dégoûter les enfants du foot, et les rendre qu'à la fin ils se tapent dessus, qu'ils se détestent, que celui qui est le moins bon, il joue jamais parce que c'est le moins bon, donc il fait jamais partie de l'équipe. On est en face d'enjeux éducatifs hyper importants, mais pour ça, il faut des gens.
Écoutons des enfants et des ados au micro de notre reporter Juliette Proutot. Voici un micro-trottoir de parti pris, mais c'est assumé. Question, pourquoi c'est bien le sport ?
Parce que j'ai l'impression que ça m'enlève des trucs mal dans mon corps. Enfin, je m'agite en fait et du coup, j'oublie un peu ce qui se passe.
Moi, j'aime bien le sport parce qu'il y a des jeux que j'aime bien, qui sont remélangés et qui changent les règles. Donc, tu peux jouer de différentes manières et le sport, ça fait du bien. T'es épuisé, tu transpires.
On sent plus
nos jambes.
On a des courbatures après.
Ouais.
T'es fatigué, on dirait tes jambes sont molles. Trop bien.
Je me sens trop motivée, j'ai envie de courir partout.
Même moi quand je suis fatiguée, par exemple si on demande de faire du sport, et ben je le fais parce que ça m'aide.
Parce que les adultes qui font du sport quand ils passent à la télé et tout, et les enfants ils font du sport partout. À l'école tu fais des cours de PS, au lycée, au collège, partout. Même en maternelle, tu fais du sport, mais ça, c'est en jouant. Et même quand on joue, par exemple, si on joue à chat ou quelque chose comme ça, et ben on fait du sport parce qu'on court.
Mais après, dans le sport, quand même, il faut de la stratégie, comme dans le basket. Dans tous les sports, il faut de la stratégie, dans tous les cas. Donc ça fait déjà, le sport, ça te fait bien au corps et ça fait réviser ton cerveau. C'est comme des maths, c'est la même chose. Donc si t'aimes le sport, et ben t'aimes les maths.
Le basket, moi... Ce que j'aime, c'est qu'on bouge et qu'on a un ballon.
Ça peut faire travailler l'esprit, travailler la confiance en soi, et travailler notre équilibre et à marquer et tout, et travailler notre esprit d'équipe.
Bah parce qu'en fait, quand t'as pas confiance en soi et tout, bah le sport, si jamais ça a besoin de la stratégie et t'es fort, tu peux donner des idées. Et aussi l'esprit d'équipe, faut apprendre à être soudé, à pas jouer solo, parce que sinon c'est plus de l'esprit d'équipe, c'est toi tout seul.
Et puis le sport, ça apprend plein de choses aussi, c'est un peu l'école de la vie.
Ça fait du bien, c'est une bonne fatigue en fait, parce qu'en fait on est content d'avoir fait ça.
tu sors, t'es crevé, mais t'es content d'avoir fait ça.
Et puis ça nous apprend à travailler et à pas se relâcher, même en cours, même si c'est pas du tout du sport, de réviser le bac ou des trucs comme ça. On nous le ressort souvent à l'école, on nous dit c'est comme une compétition, il faut s'entraîner toute l'année, pas au dernier moment. Et le sport, justement, ça nous aide pour ça.
Mais non, mais quelque chose.
Vas-y.
Par exemple, moi, moi, j'ai pas fait.
Mais non, mais attends, t'inquiète. Bah, tiens, attends, on va faire un truc. Toi, tu le tiens, mais tu lui mets en dessous de la bouche et toi, tu parles pas trop.
Quand on continue à faire du sport, par exemple, moi, je reviens d'une séance de sport avec mon prof, quand je suis revenue, j'avais envie de continuer à faire du sport. Mais c'est dommage. Par exemple, si jamais le parc il aurait mis des paniers de basket avec un ballon, et bah ça j'aurais continué à faire. Et bah c'est un peu déçu. Hein. Tu fais du sport quand même tu marches.
Reportage signé Juliette Proutot avec Bayard Jeunesse. Que retenez-vous de ces propos d'enfant, Yves Lecause?
Waouh.
Va falloir choisir.
Ouais, non, mais c'est vrai que les enfants, mais. Enfin, je veux dire, font un portrait complet d'une personne complète. C'est-à-dire entre le goût que ça peut leur donner pour les maths, entre le plaisir qu'ils ressentent, entre ce que ça leur apporte d'un point de vue social, d'un point de vue émotionnel. Enfin, qu'est-ce qui manque? On se fabrique de manière complète quand on fait du sport comme eux le sentent.
Astrid Guillard, il y a une phrase qui vous a plu en particulier?
Ouais, le sport, c'est des maths. Je trouve ça excellent. Et là, on voit effectivement que ce que disait Yves tout à l'heure, le sport, c'est un outil. C'est pas une finalité en soi.
Outil d'épanouissement, moi, c'est ce que j'entends surtout. Hein.
Et outil d'épanouissement, parce qu'il y a le côté, comme les enfants l'ont dit, on bouge, on se sent bien dans son corps, on est fatigué, on est crevé, mais c'est trop chouette. Mais voilà, c'est aussi un outil d'éducation, éducatif. Et il y a une transversalité aussi qui est possible entre le PS et puis les autres matières. C'est aussi ce que les enfants ont dit. Et puis tout est prétexte pour bouger. On le voit bien, ils le sentent. Et donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un dispositif 30 minutes de sport par jour à l'école qui a été mis en place dans le cadre de l'héritage Paris 2024, justement, pour bouger, danser, sauter, et que cette activité motrice et cognitive, parce que les enfants le disent aussi, elle soit possible tous les jours.
Allez, on va reprendre dans un instant nos échanges autour du sport. D'abord, un petit conseil. Chaque semaine, en effet, je vous propose des coups de cœur personnels, des livres, des activités, des sorties, toujours autour de l'enfance, bien sûr. Vous retrouvez tous ces conseils à la page de l'émission Barbatruc sur franceinter.fr. Et une question, où sont passées les femelles? Vous l'avez peut-être remarqué, dans les imagiers pour les bébés, on trouve souvent des animaux, mais ce sont presque toujours des mâles. Alors les éditions Talent Haut proposent cet imagier que je vous montre à tous les deux. Il vient de paraître, un petit livre solide, suffisamment solide pour être empoigné par les bébés. Son titre, Les animales. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe. On y trouve une tigresse, une renarde, une ânesse, une ours ou encore une éléphante. Joli petit bouquin signé Fred L. aux éditions Talent Haut. Les animales. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures.
Barbatruc sur France Inter avec Dorothée Barba.
Mais quel bonheur, c'était Blondie sur France Inter. Astrid Guyard, escrimeuse, vice-championne olympique et autrice de livres pour enfants. Yves Lecause, prof de PS, sont mes invités dans Barbatruc pour parler d'activité physique, de sport et de PS. Et je voudrais qu'on en vienne, Yves Lecause, à votre projet de danse. Un documentaire magnifique y a été consacré. Le film s'appelle Le prof de gym. Nous voici au moment où vous annoncez la couleur à vos élèves de 3e.
On va fabriquer un film. On va fabriquer un film. On va inventer un film. Ça, c'est un truc... J'ai rien décidé encore de tout ce qu'on va faire. Il y a un truc que j'ai décidé, la seule chose que je sais, c'est qu'on va danser dans la rue.
Quoi ?
Parce que c'est la live.
C'est devant un public. Comme ça,
c'est... Excellent ! C'est pas une blague.
Bien sûr, je vais le faire.
Hein. Tu vas danser dans la rue et il y a plein de gens qui vont passer et qui vont te regarder et vont te dire « Mais c'est quoi ? Mais ils font quoi ?» Et toi, tu sais quoi ? À ce moment-là, tu diras, je danse. Et tu diras rien même, tu le feras. Et ça, ce sera trop la classe. Ce qui ressort le plus quand on a montré ce film aux gens, que ce soit sur Internet ou que ce soit en direct quand on le montre au collège.
Sur YouTube.
Voilà. C'est vraiment la fierté des participants. On fait pas un film pour enfants. On fait pas un spectacle pour enfants. On fait pas ça. D'accord ? On fait un vrai film de danse. Un vrai film de danse.
Le prof de gym, documentaire de Benoît Grimond, qui est disponible gratuitement sur Internet et que je recommande très vivement. Yves Lecause, beaucoup d'enfants vous disent au début, mais c'est pas du sport ça, la danse.
Bah c'est vrai que c'est pas du sport.
Il y a un gamin qui a une réaction absolument géniale.
C'est de l'art.
Quand vous annoncez ça, il dit « Mais moi, je veux faire de l'éducation physique et sportive. Ouais. » Et il tape son poing dans sa main. Et là, vous lui dites « Mais ça,
mais ça, c'est bien, ça.
Ça, c'est de la danse, ce que tu viens de faire. »
Non, mais c'est vrai que les profs de PS, on est chargé aussi de cette partie-là de l'éducation physique. C'est de l'éducation artistique et corporelle. Voilà. La question, c'est du sport. Non, oui, c'est pas du sport, mais c'est une pratique physique qui est artistique. Voilà. Donc, c'est vraiment un art. D'ailleurs, on leur dit « On va faire un film de danse. On va pas faire... une compétition, on va pas essayer de battre les adversaires, on va faire le plus beau film que nous on peut faire.
Et on voit des extraits de votre film dans le documentaire et on voit surtout la fierté de ces gosses, c'est absolument sidérant. La fierté à la fin de l'année, bien sûr.
Ouais, non, ça c'est vrai que c'est ce que je dis aussi à un moment dans le film. Ce moment-là où on montre le film aux parents, aux enfants, et puis aux gens qui veulent bien venir à répondre à notre invitation, c'est notre festival de Cannes. On est au top de notre... c'est comme quand on fait le match de mercredi de foot, on fait les championnats du monde, à ce moment-là, on fait le festival de Cannes. On se refuse rien dans mon
collège. On se la raconte un maximum. Quelle graine plantez-vous chez les gamins avec ce projet danse ?
Là, j'aimerais bien savoir. Quand on est prof... On fait des paris. On parie qu'en leur disant ça, qu'en leur faisant vivre cette expérience-là, quand en leur faisant vivre cette expérience corporelle ou cette émotion-là, on parie qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il se passera quelque chose dans leur vie. C'est une science humaine, les sciences d'éducation. Donc, on fait ces paris-là.
Et on verra bien. Et on le saura peut-être pas.
En tout cas, on y croit. On y croit vraiment. Et on le saura sûrement pas. C'est très rare. Non. Les élèves, ils disent « Monsieur, je vous oublierai jamais. Ce qu'on vient de vivre, c'est pour la vie. » Et puis, en fait, c'est faux. La vie continue. Et puis, après, c'est le lycée. Enfin, il se passe des choses bien plus importantes que le film de danse qu'on a fait. Mais il se passe quand même des choses, je suis sûr, quelque part, quand ils vous croiseront un danseur, quand ils croiseront une œuvre d'art, quand eux-mêmes peut-être danseront.
Et cet élève qui voulait faire de l'éducation physique et sportive, c'est un bon danseur.
Ouais. Ben c'est marrant, hein. C'est souvent, enfin ça, tous les profs vous raconteront ça, les collègues, hein. On discute souvent de ça. On se dit souvent les élèves en qui il y a le plus de difficultés au départ, c'est les plus grandes surprises à chaque fois. On arrive à chaque fois surpris, mais oui, des élèves qu'on arrive à transformer comme ça et à changer, ça arrive très souvent ce genre
de. Ça c'est la magie de votre métier.
Ouais.
Ça arrive parfois.
Ouais, alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est la magie, puis nous on a envie de croire que c'est parce qu'on est des professionnels.
J'espère
on y tient
bien.
Beaucoup à ça.
Donnons à nouveau la parole aux enfants. Voici la question que leur a posée Juliette Proutot. L'EPS est-elle une matière comme les autres ?
C'est pas une matière comme les maths ou comme le français.
Peut-être pas parce que là on s'amuse un peu. Enfin, on s'amuse pas, mais on peut courir.
Les matières de l'école, t'es assis sur une chaise à écouter la maîtresse et à faire les cours et tout ça, t'as un cahier et tout. Alors que jouer faire du sport dans la récré, t'es
t'es dehors, tu cours partout, tu peux enlever le masque.
C'est différent.
Parce que,
Le temps passe plus vite.
Ouais, le temps passe plus vite et on a envie de continuer. Par exemple, en 5 minutes, le cours est terminé, tu dis oui, j'ai envie. Alors que dans les autres matières, ça prend 10 ans, 3 ans. Et après, tu dis, c'est quand c'est fini?
Attends, d'abord...
Mohamed, on est en train de faire ma note.
Après, Mohamed, j'arrive. J'attends Marcel.
Ah oui, c'est fatigant ces interviews alors qu'on a rendez-vous avec les copains pour jouer au ballon. Astrid Guyard, ça vous rappelle des souvenirs, cette distinction entre le sport et le PS?
Pas forcément, j'avais du sport partout et j'ai des super souvenirs de cours de PS où j'ai découvert des disciplines sportives où j'ai pas fait carrière, très clairement, mais il y avait la notion de jeu. Et il y avait la notion de jeu et il y avait une notion qui était intéressante aussi pour moi, c'était la notion de mixité. On mélange filles-garçons sur des disciplines sportives qui normalement ne s'y prêtent pas forcément quand on est en compétition. Et voilà, et donc je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Mais moi, j'ai découvert plein de disciplines sportives au travers de l'école, évidemment. Et après, j'avais ma discipline de cœur en club avec l'escrime, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir découvrir plusieurs sports. Et mais justement, il y a un dispositif qui s'appelle la carte passerelle qui permet aux enfants de CM1, CM2 qui sont licenciés soit à l'UZEP, soit à l'UXEL et de 6e quand ils sont également licenciés à l'UNSS, de pouvoir découvrir plusieurs sports en allant dans des clubs partenaires de l'opération. Et pour ça, il suffit d'aller sur la plateforme Mon Club près de chez moi.
Je saisis votre balle au bon puisque vous parliez des filles et des garçons dans le sport. Il y a beaucoup de chemin à parcourir encore sur cette question des stéréotypes sexistes dans le sport, Yves Lecause.
Ah ben, pour le coup, le sport de haut niveau ne nous donne pas toujours un exemple très facile à gérer, nous, dans les cours de PS. Hein, quand on voit les salaires des sportifs professionnels par rapport aux sportives, c'est hallucinant les différences de salaires. Quand on voit les injonctions qui sont faites à certains sportifs, comme d'avoir des tenues particulières pour pouvoir pratiquer leur sport, enfin, je veux dire, le patriarcat a encore de beaux jours devant lui dans le sport. Dans le sport de haut niveau. Donc nous, les éducateurs dans ce domaine-là, on est confrontés à un énorme sujet qui est celui de la mixité et des représentations et de ce que véhicule le sport de haut niveau sur ce sujet-là.
Et la question se pose pour le choix d'une activité extrascolaire, le choix d'un sport. Quand on voit que les cours de judo sont remplis de garçons à 97% et les cours de danse que des filles. Astrid Guyard, qu'est-ce que vous répondez à un garçon qui veut faire un sport dans lequel il n'y a que des garçons et inversement?
Mais si ça lui plaît, j'ai pas de sujet. Moi, ce que je re-questionne, c'est est-ce qu'on a ouvert l'esprit à cet enfant? Est-ce qu'on lui a posé la question de quel sport t'as vraiment envie de faire? Au-delà des préjugés sexistes, au-delà des stéréotypes, et on va lui proposer quelque chose où il va pouvoir développer ses talents naturels, ses habiletés. Et c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, cette question, elle est posée? Et je pense que, oui, il faut qu'il y ait cette ouverture dans le choix d'un sport. Il faut que le sport soit possible pour les garçons comme pour les filles. Il faut, je pense, encourager aussi une pratique mixte dans les sports.
Question autour du choix du sport, je m'adresse à la championne d'escrime. On dit souvent que c'est un sport pour les timides, parce qu'on est caché derrière un masque, l'escrime. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché?
Alors moi, on m'a dit que c'était un sport pour les hyperactifs. Ah. Alors donc, je ne sais pas. Non, ce qui est vrai, par contre, pour en revenir au phénomène du masque, c'est que effectivement, derrière le masque, on peut penser qu'on est caché et qu'on est donc, on peut se révéler, on va dire, à soi-même en portant un masque, parce qu'on se permet plus de choses, pensant que les autres ne nous voient pas. Et moi, j'ai vu au travers de notamment des initiations escrime que je peux faire dans les entreprises ou à droite à gauche, même pour un adulte, il met le masque et parfois il se révèle, il se découvre une partie de sa personnalité qu'il ne pensait pas avoir et que ses collègues ne pensaient pas non plus qu'il est, parce que justement, masqué, il s'est permis plus de choses.
Ah, donc, et sur les stéréotypes, ça me fait penser à un truc. Demain, quand j'irai en cours, je dirai à mes élèves, hier, j'ai rencontré une femme qui bat 99,99% des hommes sur la planète dans son sport. Vous les battez au fleuret. Voilà.
Belle stat.
L'escrime, je me posais la question parce que je suis quelqu'un de très maladroit et on me l'a beaucoup répété quand j'étais enfant. La maladresse, pour le coup, c'est un peu un problème quand on veut se lancer dans l'escrime.
Alors pas forcément, parce que il y a l'expression être un peu gauche, et pour le coup en escrime, être gaucher, c'est plutôt un avantage. Alors pas tant pour des raisons on va dire d'adresse et cognitive, mais plutôt pour des raisons statistiques. Il y a moins de gauchers que de droitiers.
Mais vous êtes droitière, vous?
Moi, je suis droitière, voilà, je suis dans la norme, dans la courbe de Gauss, et mais du coup, être gaucher est un avantage parce que ça peut déstabiliser, parce qu'on a peu l'habitude d'être face à un gaucher et la distance est plus courte.
Voilà. D'autres qualités requises pour l'escrime ?
Ah, il faut venir comme on est. Enfin, il y a autant d'escrimeurs que d'êtres humains. J'en connais pas un qui se ressemble en termes de position, en termes de technique, en termes d'expressivité même sur une piste d'escrime. Mais ce qui fait leur force, c'est que par contre, ils sont totalement connectés à eux-mêmes et voilà, ils trichent pas avec ce qu'ils sont.
Tenez, encore deux coups de cœur piochés dans ma boîte à idées pour les parents, un podcast et un festival. Les enfants souvent aiment entendre des histoires de bêtises. C'est d'ailleurs un conseil que je donne ici aux grands-parents. Racontez à vos petits-enfants les bêtises que faisaient leurs parents quand ils étaient petits. Le succès est garanti. Alors sans doute est-il rassurant de constater que les adultes à une époque lointaine ont aussi été des enfants. Je vous recommande ce podcast très rigolo à écouter en famille qui s'appelle « Raconte-moi une bêtise ». On y entend donc des grandes personnes, des anonymes, raconter des souvenirs d'enfance.
Tu savais, toi, que quand les adultes étaient petits, ils faisaient aussi des bêtises ?
Raconte-moi une bêtise. Une petite. Une énorme.
N'importe ma voix.
Ça, c'est une grosse bêtise.
Oups.
Catastrophe !
C'est pas moi.
Vous y entendrez notamment l'histoire d'Éric qui a fait cuire des spaghettis au grille-pain. Eh ouais, pour préparer un dîner surprise de ses parents, évidemment, ça a brûlé. Mais tout s'est bien terminé. Il y a aussi un récit de vol de bonbons et du poil à gratter pendant un réveillon de Noël en famille qui est assez savoureux. L'univers sonore de ce podcast est très proche de la bande dessinée. Raconte-moi une bêtise. La saison 1 est disponible sur vos applications de podcast et la saison 2 est attendue pour la semaine prochaine. Et puis un festival. Alors, j'ai rien contre Guignol et Niafron, hein, surtout pas, d'autant que je suis lyonnaise. Mais si vous pensez que les marionnettes se résument à des coups de bâton sur la tête, je vous invite à faire un tour à Charleville-Mézières la semaine prochaine. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes s'y tiendra du 17 au 26 septembre. Une centaine de compagnies y ont rendez-vous, venues de 16 pays. Des spectacles de tous les styles, pour tous les âges, avec une programmation jeunesse pléthorique. L'occasion donc de découvrir la richesse et la poésie du théâtre de marionnettes contemporain. Charleville-Mézières, capitale mondiale des marionnettes, c'est du 17 au 26 septembre. Et vous retrouvez toutes les infos à la page de l'émission Barbatruc sur franceinter.fr. Voici Gaël Faye.
L'histoire d'un mort. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour. Y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours. Moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance. Évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs. Auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos. Éternité, cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire. Oh, terminé de tout et pour une fois. Kito konayo lokola. Sanza na minzoto likolo. Yonde mote me pona ho. Yonde na linga. Histoire d'amour. Histoire d'amour. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate. Mokili e bongi e yeba. Bolingo yanga na yo. Suka seliwa. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanille. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi, c'est mimer la vie. C'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti.
Donner l'envie du sport, c'est notre sujet ce samedi dans Barbatruc avec Astrid Guyard, championne d'escrime, et avec Yves Lecause, prof de PS, qui fait danser ses élèves de 3e. Une question, tenez, si vous ne deviez choisir que deux disciplines sportives en tant que prof de PS ?
La danse et le rugby.
Pourquoi ?
Juste ces deux activités-là, on a tout, j'ai l'impression. Enfin, il y en a pour tous les goûts, on combat tous les clichés de ces deux activités-là. On a du combat et du jeu et de la prise de risque physique dans le rugby. Et puis, on a de la prise de risque émotionnelle et artistique dans la danse. Et on combat d'autres préjugés. Donc, vraiment, on est très complet.
Astrid Guyard, il a prononcé à l'instant le mot « jeu », Yves Lecause. Même à votre niveau de compétition, c'est toujours un jeu, l'escrime ?
Ah oui, toujours. Et le jour où ça ne le devient plus, c'est qu'il faut probablement arrêter. Je pense que cette dimension de plaisir, elle est importante. Alors encore plus dans des sports comme le mien, qui sont des sports olympiques et non professionnels, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas comme des professionnels. On s'entraîne toute la journée, on est sur des entraînements bi-quotidiens, mais on n'en a pas le statut. On ne gagne pas notre vie avec notre sport. C'est pour ça que je suis aussi ingénieure aérospatiale. Donc,
mais il y a des règles du jeu. C'est aussi ça l'apprentissage du sport, c'est l'apprentissage des règles.
Oui, c'est l'apprentissage des règles, le respect des règles, le respect de l'autre et le respect de soi aussi, évidemment. Et effectivement, on apprend les codes de la société. C'est socialisant comme outil le sport aussi. Donc
mais,
voilà.
Mais qu'est-ce qu'on fait de l'esprit de compétition ? Est-ce que c'est une manière d'apprendre à écraser les autres ?
C'est pas ma vision de la compétition en tout cas. Alors peut-être que c'est connecté à la notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure, mais pour moi en tout cas c'est comme ça que j'ai toujours appréhendé la pratique du sport de haut niveau. Je l'ai toujours vu comme un challenge personnel, une occasion de me découvrir. L'objectif, c'est aller devant soi. C'est pas écraser les autres. Et si je vais au maximum de mon potentiel, si je réalise ce jour-là ma meilleure performance avec mon état de forme du moment, avec ce que je suis, alors j'ai réussi ça. Et quelque part, je progresse de jour en jour, je deviens une meilleure escrimeuse et j'espère aussi une meilleure personne de jour en jour parce que je deviens aussi une citoyenne grâce aux valeurs que vous avez dit, grâce aux règles justement qu'on apprend au travers du sport. Et moi, c'est ma vision de la compétition et c'est le message aussi que je veux faire passer à des parents qui pourraient être inquiets justement sur oui, mais le sport c'est de la compète, du coup c'est ça peut être difficile à vivre parce que on sait des défaites, c'est de l'injustice. Il y a une autre façon d'appréhender la compétition, c'est celle de se tester, de se révéler et d'aller voir tout simplement ce qu'on a dans le ventre.
Et puis c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Le sport permet aussi de valoriser les vertus de l'échec.
Exactement, et la vérité c'est que dans la vie, il y a toujours un moment où on se plante. Bah, je veux dire, je sais pas vous, mais moi j'ai connu des hauts et des bas. Et en fait, du coup, effectivement, par l'analyse de la défaite, c'est effectivement ça qui nous projette vers une victoire. Et ça va servir dans la vie d'après, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, de se dire « Ok, j'ai tenté, j'ai eu au moins le toupet, on va dire, d'entreprendre quelque chose, et c'est pas grave de rater. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette expérience et qu'est-ce que j'en fais. »
Yves Lecause.
Pour ça, le sport a vraiment une vertu particulière pour l'école, pour le coup. Dans ce sens-là, moi, ça me parle beaucoup, le statut de l'échec, le statut de la défaite. C'est pas souvent la culture de l'école, ça. C'est-à-dire, rater à l'école, rater un exercice de maths, c'est jamais un moment où on se dit « Waouh, super, tu as raté, et grâce à ça, tu vas progresser. » On a très peur de ça, et c'est vrai que ce que nous apprend le sport, et ce que nous apprennent les sportifs, de haut niveau pour le coup, c'est cette importance, et tous racontent ce moment de l'échec, ce moment du raté, ce moment du doute, ce moment où ça marche pas. Et pourtant, c'est des grands sportifs, tous, de haut niveau, et ils nous racontent ça. Et est-ce que ça nous dit, nous, les éducateurs, est-ce que ça dit aux enfants? Je trouve ça vraiment très, très important, et on devrait souvent s'inspirer de ça, de statut de l'échec.
Et la fierté, est-ce que c'est un bon moteur pour faire du sport, à votre avis, Yves Lecause?
C'est à double tranchant, hein, parce que
c'est dangereux.
C'est dangereux parce que ça peut être un moteur. Et puis, par contre, ce qui va le pendant de la fierté, c'est parfois c'est l'humiliation. C'est des moments comme ça. Et ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'obsède quand en tant que prof, c'est de voir tous les élèves. Voilà, et tous les élèves, contrairement au sport fédéral, ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. C'est obligatoire le cours de PS, hein. C'est 4 heures de cours dans la vie d'un élève de 6e, c'est 3 heures ensuite. Ils sont obligés d'être là et leur dire qu'ils sont obligés d'y prendre du plaisir et qu'ils sont obligés de réussir, ça commence à faire beaucoup, ça fait un sacré poids.
Même pas peur de poser à une sportive de haut niveau la question de la fierté. Qu'est-ce que vous en faites, Astrid Guyard, de la fierté?
C'est un moteur qui est étrange, il peut faire mal quand on rate. Mmh. Néanmoins, très sincèrement... Quelque part, quand j'étais petite, moi, comme tout le monde, je cherchais l'amour de mes parents. Par le sport, par les résultats scolaires. C'est aussi, à un moment donné, on vient chercher ça et c'est un sentiment de fierté. Donc c'est un peu naturel, je crois. Maintenant, il faut l'appréhender et il faut pas que ce soit noir ou blanc, notamment dans le bilan qu'on fait de ce qu'on entreprend. Mais oui, à chaque étape de ma vie, je crois que des autres, j'ai quand même été chercher cette approbation, cette reconnaissance et ça donne de la fierté. Donc... faut pas en avoir peur et voilà.
Dorothée Barba sur France Inter. La tulle mon petit.
Il est temps à présent de s'installer au rayon jeunesse des librairies avec Denis Chessou qui surveille de près l'actualité du livre pour enfants. Cette semaine, un livre pour prolonger l'été et un autre avec des plantes qui poussent sur la tête des gens. Bonjour Denis.
Mais oui, nous y sommes. Bonjour Dorothée et bonjour à tous. On débute par Le plus bel été du monde de Delphine Perret aux éditions Fourmis Rouges. C'est pour les 4-7 ans. Arrivé dans la maison des vacances. Ça fait un an que les bonbons sont en haut de l'armoire dans le pot de verre.
Oui, mais ils ont l'air bons, s'il te plaît.
Bon, d'accord, mais ils doivent sentir Laurence.
Pas du tout, regarde, ils sentent l'ananas.
Delphine Perret raconte un été qu'un enfant passe avec sa mère dans la maison de ses grands-parents.
On peut aller au grenier. Mais
tu sais, ça fait beaucoup de poussière.
Oh, s'il te plaît, j'ai envie de voir des coffres et des squelettes.
Et de suite, ça sent l'enfance, les petits riens, les petites expériences qui font tout. Hanneton, ortie, amis qui viennent, chardon, scarabée. Et qu'est-ce que tu fais?
Je sauve une abeille.
Ah bah tiens, tends-lui la cuillère qu'elle s'accroche. Et là?
Je regarde les fourmis.
Ah, là tu vois, il faut qu'un brin d'herbe soit tendu entre les pouces pour souffler dedans.
Mais c'est pas facile.
Et là, c'est l'endroit préféré de sa maman depuis son enfance. Oui, juste sur cette pierre.
Tu penses à quoi, maman?
Je pense à mon papa, à ton âge.
C'est qui le gros bébé?
Ah, c'est mon papa avec son papa.
Moi, je préfère la photo du chien dans la niche.
Un été parmi d'autres qui n'a finalement rien d'exceptionnel, mais qui, grâce au talent et aux aquarelles de Delphine Perret, a la capacité d'émerveillement de l'enfance, et ça devient le plus bel été du monde. Et tu sais ce que j'ai trouvé dans la cour?
Non.
Une crotte de renard.
Oh, on peut dire aux autres que c'est moi qui l'ai trouvé.
Mère et fils complices, transmission dans cette maison familiale et en dehors, lieu témoin de plusieurs générations, partage de moments fugaces, drôles et tendres.
De la cueillette des murs au chant des oiseaux.
Des instants dans lesquels beaucoup d'enfants se reconnaîtront. Dessins aux traits qui ponctuent le récit entre les aquarelles, qui apportent douceur et poésie. Cet album raconte toutes ces saisons, vous savez, qu'il faudra à un enfant pour s'inscrire dans le monde. Trouver sa place dans sa famille et la nature. Ça s'appelle Grandir et ce livre fait simplement du bien à tout le monde. Le plus bel été du monde aux éditions Fourmis Rouges, c'est pour les 4-7 ans. Fracassante rencontre de Estelle Von Feld et Julia Pintus aux éditions à demi-mot à partir de 5 ans. Imaginez grandir avec une plante sur le haut du crâne. Ah, étonnant. Eh ben, c'est la particularité de nos personnages.
Il était une fois un monde où les gens vivaient avec une plante sur la tête. Elle poussait à la petite enfance et portait le nom de Végétête.
Cette parure florale n'était pas que décorative. Elle déterminait la personnalité, l'identité même des gens.
Ainsi, avec des chardons, vous passiez pour quelqu'un de plutôt agressif. Tandis qu'avec de la lavande, on vous adorait.
Dans ce monde où une plante décidait tant, vivait un homme qui n'en avait pas.
Il avait testé toutes les techniques connues. Le tapis d'éclosion, les bains d'engrais et même l'après-shampoing à base de bouse de poney.
Il se fit une raison. Dans ce monde où le végétète était la norme, il n'aurait jamais sa place.
Monsieur Désert vivait seul, dormait seul et travaillait seul dans sa boutique d'oiseaux d'ornement.
Qui consistait à trouver un oisillon à mettre dans le végétète des autres. Alors c'était très à la mode. Il avait beaucoup de travail et ne pensait pas trop à son malheur.
Un jour, en inspectant dans son colis, il fut surpris d'y trouver un oiseau bizarre.
Il avait une drôle d'apparence, son chant était inaudible, alors il hésitait à le renvoyer car il le condamnait. Il le garda dans son atelier où l'oiseau s'épanouit très vite, lui apportant beaucoup de joie. Et un jour, Monsieur Soliflore, son client le plus important, entra.
Lassé de voir les mêmes oiseaux, il s'intéressa au petit biscornu de Monsieur Desherbes qui, sans trop réfléchir, lui dit « C'est un oiseau très rare et très cher ».
Il le vendit et fut à l'abri du besoin, mais devint vite triste, inconsolable. Quelques jours plus tard, Monsieur Soliflore débarqua sans crier gare.
Il ramena l'oiseau qui se laissait dépérir et n'était plus dès lors un ornement acceptable.
Et en colère, notre homme ouvrit toutes ses cages pour libérer les oiseaux.
Mais après 3 jours et 3 nuits, perturbé de fièvre et de songes étranges, à son réveil, le petit oiseau était bien là, gazouillant et plein de vie.
Et lui, Monsieur Desherbes, n'était plus le même. Alors vous avez une grande créativité qui est déployée par les deux autrices pour raconter une histoire singulière et dense. Et l'universalité des thèmes de la différence, de l'amitié et du bonheur sont là. Mais il cède à l'esthétique aussi surprenante par un dénouement curieux qui laisse une grande part à l'interprétation et à la discussion sur des sujets profonds et humains. Fracassante rencontre, Estelle Wanfeld et Julia Pintus aux éditions À demi-mot à partir de 5 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une belle suite d'émissions, chère Dorothée.
Merci beaucoup, Denis Chessou. L'as-tu lu, mon petit loup, est disponible en podcast et sur le site de France Inter. Vous y retrouverez aussi les titres et les références des livres conseillés par Denis. Yves Lecause, professeur de PS, Astrid Guyard, championne d'escrime, sont toujours avec moi. On a parlé de sport et j'ai à présent une dernière question à vous poser. C'est un rituel dans cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Astrid Guyard.
Je peux en donner deux ?
Allez.
J'ai l'herbe fraîchement coupée dans le jardin de mes grands-parents. Et quand je rentre dans la maison, l'odeur de la purée avec du beurre que ma grand-mère est en train de préparer.
Beaucoup de beurre.
Oui.
Donc pas une odeur d'escrime, je m'attendais à une odeur de gymnase.
Non, souvent c'est des odeurs de sueur, c'est pas forcément celle-ci dont j'ai envie de me souvenir.
Ça fait moins effet Madeleine, exactement. J'imagine. Yves Lecause, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Oh là là, j'adore cette question. Moi je suis sur le chemin de l'école, parce que je vais quand même parler d'école, mais je suis sur le chemin de l'école, et je trouve au fond de ma poche une petite boule d'eucalyptus, et quand je sens l'odeur de cette boule, je suis directement transposé devant le phare de Ploumanac à Pérouse, et je sais que c'est ma mère qui l'a attrapé et qui l'a mise discrètement dans ma poche pour que quand je me retrouverai quelques mois après sur le chemin de l'école, je fasse ce petit voyage rapide auprès d'elle sur le chemin de Ploumanac.
C'était une petite surprise qu'elle vous mettait dans la poche.
Une petite surprise comme ça que je découvrais pendant l'hiver.
Oh, il est magnifique, notre inventaire olfactif de la semaine.
Ma mère est
de la purée de patates, de l'herbe coupée et de l'eucalyptus caché dans la poche. Les incroyables rencontres de Joe, les livres jeunesse d'Astrid Guyard sont publiés aux éditions du Cherche Midi. Très chouette manière de véhiculer les valeurs de chaque discipline sportive, handball, basket, escrime. Et j'en passe avec des illustrations signées Olivier Loyen. Le tout dernier, c'est Joe tout feu tout glace. Une rencontre fictive entre Joe et la patineuse Nathalie Péchal. Là, quand elle était enfant. Le documentaire sur vous et vos élèves, Yves Lecause, ce film que je recommande vivement à nos auditeurs et auditrices est disponible gratuitement en ligne. Ça s'appelle Le prof de gym, réalisé par Benoît Grimont. On trouvera un lien, bien sûr, à la page de l'émission sur le site de France Inter. Merci mille fois à tous les deux. Ça m'a donné envie de courir, de faire pas mal de sport. C'est réussi, donc.
On y va.
Merci à vous, Dorothée.
C'est parti.
Bonne journée et à bientôt sur Inter.